Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Voilà un commandement curieux qui invite au gaspillage, en quelque sorte. Il invite à jeter ce qui nous est précieux en disant « tu le retrouveras ». Voilà qui est effectivement curieux. En première approche, je dirais que je trouve ça très juste. Peut-être que ce qu'il veut dire, c'est que l'important, ce n'est pas de posséder, mais c'est d'être. Ça, on le dit beaucoup. Il y a l'avoir et l'être. Ce que l'on possède, c'est de l'ordre de l'avoir, et c'est finalement assez secondaire, parce que ce que l'on a, on peut le perdre. Et ce que l'on a, de toute façon, on le laissera sur terre, on ne l'emmènera pas au ciel. Alors que l'être, ce que vous êtes, personne ne peut vous le retirer. Et peut-être aussi que l'Ecclésiaste a raison en disant qu'il faut jeter son pain, peut-être que pour être plus, pour être, il faut accepter de perdre ses possessions. Alors il n'invite pas à un gaspillage par négligence. Il ne dit pas qu'il faut tout dilapider n'importe comment, mais il invite à un don volontaire. Un don volontaire, ce n'est pas un gaspillage, c'est plutôt celui qui sait très bien ce qu'il fait parce qu'il donne et qu'il se sépare de quelque chose volontairement. Et je pense que se séparer de quelque chose que l'on a matériellement, de quelque chose que l'on possède, ça a de très grands mérites, et ça c'est vrai. Et je vais vous dire pourquoi. D'abord parce que il y a quelque chose qui touche à la valeur du don. En effet, l'Ecclésiaste dit « jette ton pain, donne, en effet, donne à l'un, donne une part à 7 ou même à 8 personnes ». Et donc c'est la valeur du don. Le don, c'est une chose extrêmement importante. Et je suis convaincu, à propos de richesse, que l'on n'est vraiment riche que de ce que l'on a donné. Alors j'essaye d'expliquer ça tous les ans à mes catéchumènes, et je leur dis, regardez par exemple mon stylo Mont-Blanc. Je le possède, il est à moi, mais je peux le perdre, ou on peut me le voler. Et donc cette possession est finalement très dangereuse. Alors que si je le donne à l'un ou à l'autre, une fois que je lui ai donné, eh bien j'aurai moi le trésor d'avoir donné quelque chose de précieux. Lui pourra toujours le perdre, mais moi, plus personne ne pourra me retirer le trésor d'avoir donné à quelqu'un à qui ça fait plaisir quelque chose qui m'était précieux. Et donc finalement, à la veille de ma mort, quand je ne pourrai même plus écrire avec aucun stylo, j'aurai perdu peut-être tout ce que je possède, mais il me restera le trésor d'avoir un jour donné ce stylo qui m'était précieux. Et donc je suis convaincu que nous ne sommes riches vraiment que de ce que nous avons donné, parce que ce que nous avons donné, personne et rien ne peut faire que nous ne l'ayons pas donné. Et c'est ça le trésor de notre vie, et ce sont là les trésors que nous emmenons, je dirais, dans l'autre monde, dans le ciel. Parce qu'en mourant, je vous disais, il n'y a pas de poche dans l'essuaire, et donc je n'emmènerai aucun de mes beaux stylos, mais néanmoins j'emporterai ce que je ne possède déjà plus, et ça, ce sera ma vraie richesse. Et donc, effectivement, ce que l'on possède sur terre, on croit le posséder, mais on ne le possède pas vraiment. On peut le perdre, et on le laissera. Et les vrais trésors, c'est les trésors que l'on a dans le ciel. Ah oui, c'est ce que dit Jésus dans l'Évangile, « Amassez-vous des trésors, non pas sur terre, où les voleurs percent et dérobent, et où la rouille détruit, amassez-vous des trésors dans le ciel où les voleurs ne peuvent rien prendre et où la rouille ne peut rien détruire. » Autre grand mérite de se séparer de quelque chose que l'on possède, même si ça n'est pas pour donner, ça a déjà un mérite pour soi, peut-être de l'ordre de la dépréoccupation du matériel. En effet, l'Ecclésiaste ne dit pas simplement « donner », il dit simplement « jette ». Simplement, arrête de posséder, en quelque sorte. Et là aussi, il y a quelque chose que je crois juste, et je pense que nous sommes finalement tous trop matérialistes. Et notre civilisation a de grands mérites, mais je crois que néanmoins, elle a aussi de grands défauts. Nous sommes dans une civilisation monstrueusement matérialiste, où l'on pense qu'il faut posséder, et où l'on admire ceux qui possèdent, les riches, les puissants, les forts. Et en fait, il y a effectivement là une fausse valeur, c'est que la richesse d'un être ne dépend absolument pas de ce qu'il possède. Et plus je suis pasteur, je dirais, plus je vois des gens riches ou pauvres et de tous les milieux, et plus j'en suis convaincu. Donc je crois que nous sommes trop matérialistes, trop attachés à la possession. Nous croyons sans cesse que notre être dépend de ce que nous avons. Et ça n'est pas bon. Et donc, donnons. Nous avons trop, donnons. Voilà. Ou pour commencer, imaginons que nous donnons. Tenez, ce sera déjà un bon exercice. Imaginons que nous puissions tout perdre. Ça peut arriver, hein. Les Juifs, pendant la guerre, partaient avec une valise à l'autre bout du monde, laissaient tout. Et qu'est-ce qu'il leur reste? Eh bien, il leur reste qu'ils sont. Et mes ancêtres aussi, au XIXe siècle, ont fait faillite, ils ont tout perdu. Le soir, ils disent, voilà, on s'en va. Ils partent avec deux valises en Argentine. Imaginons que nous puissions faire cela. Qu'est-ce qui reste? Il reste ce que nous sommes. Et donc ça, c'est important. Cela nous rappelle que nous devons vraiment, il est temps, c'est maintenant, chercher les vraies valeurs, ce qui est au-delà de la possession matérielle. Et pour cela, eh bien, il faut apprendre à se détacher du matériel. Le meilleur moyen d'apprendre à se détacher du matériel, c'est de donner. Et donc, avant que la vie, que le cours du monde, que les événements vous prennent, commencez par donner vous-même. C'est ce que dit le Seigneur Jésus-Christ. « Ma vie, personne ne me la prend, c'est moi qui la donne. Heureux celui qui aura donné ce qu'il possède avant que le cours de son existence le lui arrache. » Alors nous pouvons effectivement déjà nous entraîner sur des petites choses. Parce que Jésus dit bien cela au jeune homme riche. Hein. Il regarde ce jeune homme riche, il avait tout, il était riche, il était parfait, etc. Il lui dit « Te manque quelque chose. Tout ce que tu as, donne-la. Tout ce que tu as, donne-le. Et tu auras un trésor dans le ciel. » Alors c'est vrai, c'est exagéré, bon, on n'est pas obligé de tout donner non plus, mais on peut commencer maintenant par des petites choses, oui, apprenons à donner. Et jeter son pain, c'est oser donner. Jeter son pain, se séparer de quelque chose, c'est comprendre que notre vie n'est pas un conservatoire. Ce n'est pas une grange que l'on va bourrer de ceci ou de cela. La vraie vie, c'est de donner, c'est de prêter, c'est de dépenser. C'est de ne pas accumuler. Et la vie, ce n'est pas de se dire « Ah, il faut que même pour ma propre santé, il faut que je me préserve, il faut que je me repose, il faut que je ne me fatigue pas trop. » La vraie vie, c'est de se dépenser. Donnez-vous pour les autres, donnez-vous entièrement, donnez votre santé, donnez votre vie, donnez ce que vous possédez. C'est ça la vie. La vie, c'est de donner, c'est pas d'accumuler, de construire une deuxième grange pour en mettre encore plus, qui demain brûlera. C'est ce que dit l'Évangile aussi à un autre endroit. Notre vie, ce n'est pas d'accumuler, c'est pas d'agglutiner le plus possible autour de soi, mais je crois que la vie, c'est d'apprendre à se dépouiller. Et il y a un travail de dépréoccupation du matériel qui doit se faire progressivement jusqu'au jour de sa mort. Et à ce moment-là, on meurt en disant « Je quitte ce monde sans regret ». Ça, c'est merveilleux. Donc la vie n'est pas une accumulation, même de bonnes œuvres. Nous n'accumulons pas des bonnes œuvres, nous sommes là pour dépenser. Nous devons faire, agir. Pour rien, comme ça, gratuitement, sans rien attendre, et finalement, on en est d'autant plus riche. Autre mérite du don ou de la dépense, en quelque sorte, c'est la confiance en Dieu. Parce qu'en effet, ce n'est pas du tout normal de jeter son pain dans le ruisseau. Le pain, pour l'ecclésiaste, c'est ce dont il a besoin pour vivre. Et s'il jette son pain dans le ruisseau, demain, il va vivre de quoi? Ce n'est plus là le superflu. On ne lui demande pas de donner aux pauvres ce qu'il a en trop, mais de lui donner son pain. C'est pas même les, je dirais, voyez ce que je donne aux pauvres parce que ça ne m'empêche pas de vivre. C'est de donner son pain, ce qui est vital pour lui. Et donc, s'il donne son pain, l'essentiel, eh bien, de quoi va-t-il vivre? Eh bien, c'est un geste de confiance. C'est un geste de confiance en se disant « l'Éternel pourvoira ». Donc, c'est un geste de confiance dans la providence de Dieu. Alors là, je suis un peu gêné parce que je ne suis pas du tout persuadé que Dieu vienne en providence matérielle à ceux qui n'ont plus d'argent, plus de travail ou plus rien à manger. Et on a tous des exemples de gens très saints qui vraiment manquent de l'essentiel matériellement. Mais je crois que ça n'est pas la question. Parce que justement, je suis convaincu que l'essentiel n'est pas dans le matériel. L'essentiel n'est pas même dans le pain. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris en lisant même les penseurs de l'Inde. En Inde, les gens de l'Inde se moquent de nous occidentaux et de notre action sociale. Ils disent « ils sont marrants ces occidentaux ». Ils s'énervent, ils s'excitent pour aller donner des bols de riz à des gens qui ont faim, alors que nous, dans nos monastères, nous avons des gens qui, par leur foi, eh bien, ont faim. Et ça ne leur pose aucun problème. Et puis même si on meurt de faim, c'est pas grave. Bon, ils vont trop loin sûrement, ça vous choque, oui, ça vous choque. Mais néanmoins, réfléchissez quand même que le Christ a dit « l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Et ça, j'en suis convaincu. Aujourd'hui, ce ne sont pas ceux qui ont le plus à manger qui sont les plus heureux ou les mieux. Ce sont parfois même ceux qui crèvent de faim en Inde, sur le bord des routes. Et parfois, il y a là, justement, un vrai trésor, une vraie richesse et peut-être une vraie humanité, plus que ces gens qui explosent d'avoir trop mangé. Donc, effectivement, l'essentiel, il est au-delà du pain. Donc, arrêtez de vous préoccuper du pain, de ce que vous aurez à manger, de ce que vous aurez comme métier demain, de tout cela. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Est-ce que je regarde mes paroissiens en disant « Ah, lui, il est au chômage, il ne gagne rien, c'est une misère humaine ?» Bien sûr que non. Et est-ce que Dieu traite de misère humaine ceux qui crèvent de faim? Bien sûr que non. Et donc, l'essentiel est ailleurs. L'essentiel, c'est l'amitié, c'est l'amour, c'est le don, c'est la gratuité. Et tout cela ne s'acquiert qu'en sortant de son égoïsme et donc en se dépréoccupant de soi-même et même en se dépréoccupant de son avenir matériel. Et donc, c'est bien ça, je vous disais tout à l'heure la question, si tout à coup j'enlève tout ce que je possède, qu'est-ce qu'il reste? Bonne question. Et même, je dirais, et si j'enlevais toutes mes assurances de l'avenir, tout mon plan d'épargne, retraite, de ceci, de cela, ce que je prévois, allez, si j'enlève tout, qu'est-ce qu'il me reste? Je n'en sais rien, mais j'ai confiance. Parce que de toute façon, je dirais, vous pouvez tout prévoir, sauf l'avenir. Vous pouvez tout prévoir, sauf l'avenir. Vous pouvez prendre toutes les assurances que vous voudrez, l'avenir ne sera pas ce que vous avez imaginé. Et même avec les meilleures assurances, les meilleurs placements, personne ne peut savoir ce que sera la vie demain. Autrement dit, faisons comme le dit le Seigneur dans l'Évangile encore, eh bien, faites confiance que demain prendra soin de lui-même. Demain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. De toute façon, vous ne savez pas ce qui sera demain, Dieu pourvoira. Alors comment est-ce que Dieu pourvoira? Non pas qu'il donnera toujours la subsistance matérielle, mais je suis convaincu, très fermement convaincu, que quelle que soit la situation matérielle, quoi qu'il arrive, il y aura toujours une vie possible, il y aura toujours de la joie possible, il y aura toujours un bonheur possible, et il y aura toujours la possibilité d'aimer et d'espérer. Et je suis très sensible à cela quand je vois des nouveau-nés, des couples qui font des enfants. Et je me dis, mais quelle audace! Ces pauvres enfants, quelle va être leur vie future? Avec les trous d'ozone, la menace atomique, le réchauffement climatique, le tiers-monde à nos portes, l'islamisme, la crise financière. Et ces pauvres enfants, est-ce que vous faites un beau cadeau à ces enfants en les mettant au monde? Eh bien, je me dis oui, il faut un sacré acte de foi pour faire un enfant. Et l'acte de foi, c'est de dire, eh bien, mon enfant, quoi qu'il arrive, je crois que tu pourras être heureux. Parce que l'essentiel de la vie ne sera pas que tu continues, comme nous occidentaux, à nous goberger sur des richesses injustes, mais que l'essentiel de la vie, ce sera d'aimer et de donner, et toute ta vie, tu pourras aimer, tu pourras donner, et toute ta vie, tu pourras trouver un sens à ta vie. Et donc ça, j'y crois très fermement. Le monde aujourd'hui peut nous faire peur, c'est vrai. Alors devant la peur de l'avenir, il y a deux solutions. Il y a celle que nous proposent nos politiciens actuels, en quelque sorte, et qui surenchérissent dans la peur. Économisez l'eau quand vous vous lavez les dents. Ne roulez pas trop, prenez votre bicyclette, arrêtez de polluer. Vous pouvez faire ça. D'ailleurs, c'est très bien, je suis tout à fait favorable à prévoir l'avenir, à mettre de l'argent de côté, à ne pas trop polluer et tout cela, mais faisons cela en sachant que là n'est pas l'essentiel. Et même si l'avenir est pollué, eh bien nous verrons, il y aura toujours une possibilité d'aimer. Donc toutes ces craintes sont des mensonges. Le danger, ce serait de croire que notre vie ne dépendrait que de cela. Le sens de notre vie ne dépend pas de ces conditions matérielles. Notre bonheur, notre accomplissement même, est au prix d'avoir compris cela, que le sens de notre vie ne dépend pas de ces craintes. Donc tout cela, toutes ces choses matérielles ont une importance relative. Faites au mieux, et puis après on verra bien. Et quoi qu'il arrive, faites confiance. Dieu pourvoira, c'est-à-dire que Dieu permettra que vous puissiez toujours trouver un sens à votre vie. Ça, c'est, il paraît que dans la Bible, il y a écrit, ça me semble trop beau pour être vrai, 365 fois, une fois par jour de l'année, « N'ayez pas peur ». Je ne sais pas s'il y en a vraiment 365. Il faudra que je regarde, j'ai cherché ce matin, je n'ai pas eu le temps, vous chercherez. 365 fois, n'ayez pas peur. Une fois par jour de l'année. Et donc ne vivez pas dans la crainte, mais vivez dans la confiance. Soyez libérés de toute peur. Et il faut avoir conscience des difficultés, mais il ne faut pas en avoir peur. La peur, elle ne fait faire que des bêtises. La peur, elle paralyse. La peur, elle fait perdre confiance en soi. La peur, c'est une anticipation négative. Pour avancer, il ne faut pas avoir d'anticipation négative. Il faut avoir le regard porté au-delà de l'obstacle et y aller avec confiance. Il faut y croire. Et donc, vous avez peur de perdre ce que vous possédez. Premier exercice, donnez. J'avais un maître d'équitation qui faisait ça aux élèves qui avaient peur de tomber. Il les mettait au galop, il disait « tombe ». Il se jetait du cheval, il tombait par terre. Il faisait trois fois, et finalement, il n'y a pas de problème. Il n'avait plus peur. Et donc peut-être qu'il y a aussi un exercice personnel à justement se départir volontairement avant que l'on ne nous arrache. Effectivement, il faut avoir confiance. Il faut y croire. Voilà, il faut y croire. Et c'est ça la foi. La foi, c'est d'y croire. C'est de dire « j'y arriverai ». C'est possible. Bon, je ne sais pas encore très bien comment, tout cela est un peu flou, mais je sais que c'est possible et que j'y arriverai. Et je sais que quoi qu'il arrive, comme dit l'Évangile, en Christ, je suis plus que vainqueur. Arriver gagnant et gagner. J'ai avec moi Dieu, c'est le roi du monde. Ben, c'est pas mal, donc n'ayez pas peur. Et même au-delà de la peur, je crois qu'il faut non seulement ne pas avoir peur, mais même oser sortir de chez soi, oser vivre avec audace, sans être sans cesse dans des petits calculs, sans se poser trop de questions. Dans la vie, il faut être audacieux, il faut être courageux, il faut oser aller dans la vie, sortir de ces petits calculs. Vous savez, comme l'aveugle de Jéricho, on dit qu'il était aveugle, et il est guéri au moment où il abandonne son manteau. Son manteau, c'était sa seule richesse, sa seule protection contre tout. Et il se dit, c'est vrai. Allez, je laisse là ma richesse, mes protections, mes tours d'ivoire, mes réserves, mes remparts, et je me lève tout nu, et j'y vais. Mais j'aurai quoi? Mais je verrai bien. Je fonce, j'avance. Tout quitter, c'est pour se mettre tout nu à la suite du Christ. Ça, c'est la vie. Ça, c'est vivre. Voilà. Ne pas vivre terré comme des bêtes, mais sortir pour aller dans le monde et se risquer dans le monde. Kierkegaard, qui était d'ailleurs fils de pasteur, le célèbre philosophe, a dit quelque chose qui me fait réfléchir sans cesse. Il a dit « La foi est un saut qualitatif dans l'irrationnel ». Non pas que la foi soit absurde, mais la foi, c'est un saut. c'est se jeter avec confiance, accepter de se lancer dans une sorte de folie, de déraison, dirais-je, non pas de faire n'importe quoi, bien sûr, mais de faire quelque chose qui sort peut-être de la logique petite bourgeoise, de l'économie, du principe de précaution, du risque zéro. C'est effroyable, ça. Si quelqu'un m'a envoyé un message la semaine dernière qui m'a beaucoup plu, c'est mon collègue le rabbin Corsia qui a dit « Si Moïse avait appliqué le principe de précaution, il n'aurait jamais traversé la mer Rouge. » Et donc, dans l'audace d'un projet généreux, sauter pour aller vers l'autre. Voilà. Le chrétien, c'est un parachutiste. C'est un para, un commando. Le chrétien, c'est celui qui quitte la sécurité de son petit avion dans lequel il croit être en sécurité, provisoirement d'ailleurs, pour se jeter dans le vide, pour aller rejoindre l'autre, pour aller sauver l'autre. Il se jette dans le vide. Ça n'est pas naturel du tout. Tous les parachutistes le disent. C'est complètement fou. C'est tout sauf naturel. Se jeter de là où on est bien dans le vide. Ça n'est pas naturel. Eh bien, le chrétien, il fait comme ça. Ça n'est pas naturel, mais disent ceux qui ont sauté en parachute, il faudra que je le fasse quand même un jour, c'est exaltant. Voilà, c'est exaltant et ça permet de réaliser des grandes choses. Alors ce saut dans l'inconnu, dans la folie, eh bien, on le rencontre ponctuellement dans la vie de chacun, en fait, dans des grands moments de l'existence. Et je suis heureux que ces quelques moments de folie qu'ont un peu tous les humains soient justement célébrés par une sorte de rite sacramentel, même dans l'Église. Vous voyez quels sont ces moments de folie qu'un être humain fait une ou deux fois dans sa vie. Le premier, c'est le mariage. Saut incroyable dans la folie complète. Eh bien, on dit, voilà, l'Église, ça, mes petits amis, vous faites une folie, mais c'est merveilleux. Et l'autre folie, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est de faire un enfant. Quelle folie! Quelle déraison! Ces choses-là, aussi bien prétendre se marier que de prétendre faire un enfant, c'est ce qui peut donner les plus grandes joies de la vie et aussi les plus grandes peines, c'est vrai. Les plus grandes difficultés, les plus grandes choses. Mais par choix, refuser de prendre ce risque serait se condamner soi-même, autant mourir tout de suite. Effectivement, un enfant, je dirais, c'est pareil. Hein. C'est absurde, c'est un mauvais calcul. Ça condamne son compte en banque. Ça condamne sa santé, son sommeil, son temps libre, même parfois son couple, et sa réussite professionnelle dans bien des cas, mais c'est merveilleux. Eh bien, il faut réfléchir à cela. Ce sont les plus grands moments de la vie. Que ça tourne bien ou mal, ça n'est pas le problème. De toute façon, on trouvera une solution. Voilà. Mais ce sont les choses les plus merveilleuses. Et heureux celui qui est capable de faire cela, non pas simplement parce qu'il est amoureux, ou parce qu'il y a une sorte de désir animal de se reproduire, quelle horreur, mais par une sorte de volonté, justement, d'être amoureux de la vie et d'être amoureux de l'autre. Parce qu'il n'y a pas que les gens qui se marient qui font le bien, et il n'y a pas que ceux qui ont des enfants qui sont féconds. Je vous disais tout à l'heure, il faut aller vers l'autre, et être capable d'aller vers l'autre, même quand on n'est pas amoureux, c'est prendre le risque d'aller vers l'autre, de sauter dans l'inconnu de la relation. Et chaque fois que l'on donne son amitié, chaque fois que l'on donne sa confiance, chaque fois que l'on donne son temps, et même chaque fois que l'on donne quelque chose de matériel à quelqu'un, on prend un risque. On ne sait pas où ça va nous mener. Mais c'est ça la vie. Jette ton pain et tu verras bien, il en sortira quelque chose. Donne-toi toi-même, jette-toi toi-même et il en viendra quelque chose. Et qu'est-ce qu'il en viendra ? Ben j'en sais rien. Et là, nous devons dépasser un autre danger de notre société utilitariste, qui se dit « Ah, je donne, oui, mais qu'est-ce qu'il va en faire, l'autre ? Et bon, je me marie, mais est-ce qu'elle sera fidèle ou est-ce qu'il sera généreux ? Est-ce que mon enfant va bien faire ce qu'il faut ? Est-ce qu'il sera en bonne santé ?» Voilà, ça aussi, c'est un piège. Jette ton pain, ne calcule pas, ne te pose pas de questions. Marie-toi sans te demander si ton couple réussira ou non. Fais un enfant sans te demander s'il vivra jusqu'à 90 ans, s'il sera polytechnicien ou autre. Jette ton pain à la surface des eaux. Ne te demande pas si ça réussira ou pas, sinon tu ne feras jamais rien. C'est ce que dit l'Ecclésiaste. Celui qui regarde le ciel ne sèmera jamais, parce qu'il fait toujours ou trop beau, ou trop chaud, ou trop froid, ou trop humide. Ce qui me rappelle un vieux proverbe breton, qui trop écoute la météo, passe sa vie au bistrot. Ben, c'est ce que dit l'Ecclésiaste, voilà. Et donc, arrête de te demander où ça va mener. Fais ce que tu as à faire, sans te demander si ça servira à quelque chose, si ça te rapportera quelque chose. Fais les choses par conviction, par idéal, pas par calcul. Ne te demande pas ce que cela te rapportera à toi. Ah, je donne, mais ça va m'élever spirituellement, c'est merveilleux, Dieu me le rendra, ou je ne sais quoi. Tu donnes, et puis c'est tout. Ne te demande pas si l'autre en fera un bon usage. Je donne, et je donne. Ne te demande pas, quand tu vas aider quelqu'un, si ce sera efficace. Fais ce que tu as à faire, sinon tu ne feras jamais rien. D'abord, c'est comme ça que Dieu agit pour nous. Ça, c'est la parabole du semeur. Le semeur sorti pour semer, lui, il sème. Il ne regarde pas la météo, le semeur de la parabole. Non seulement il ne regarde pas la météo, mais il ne regarde même pas où il jette la graine. Il jette sur les pierres, sur les chemins, sur les terrains arides, sur la bonne terre aussi d'ailleurs, mais il jette partout. Et Dieu, il agit comme ça avec nous. Il nous donne son amour, sa grâce. Et qu'est-ce que vous en faites ? Si vous en faites du bien, c'est bien. Mais Dieu ne retient pas sa main. Dieu nous donne à chacun et il nous donne gratuitement. Notre vie est offerte, sa grâce est offerte. Et comme le dit l'Ecclésiaste, même la chaleur du soleil est offerte à tous. La source qui coule dans le désert est offerte à tous, sans se demander si celui qui en prendra en fera bon usage. Même le Christ est mort pour tous, pour les bons comme pour les pécheurs, sans faire de calcul. Dieu accepte, lui, le risque d'agir. Non pas par négligence, mais par choix, volontairement, je donne, même aux pauvres, et je sème, même sur le terrain rocailleux. Eh bien, je crois que nous devons faire comme cela. Nous devons faire ce que nous avons à faire, parce que nous pensons que c'est ça qu'il faut faire, et puis c'est tout. Et c'est ça la grâce. Comme je le dis parfois au moment de la quête, comme vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et à la limite, à la quête, au culte, je dis, vous donnez, c'est pour l'Église, c'est pour ceci, c'est pour cela. Je ne devrais même pas vous le dire. Qu'est-ce que ça peut vous faire ? Que ce soit pour ci ou pour ça, donnez, et c'est tout. Terminé, vous donnez, et je donne. Nous devons faire ce que nous avons à faire, agir gratuitement, comme ça, sans rien attendre, et c'est ça la plus belle des choses. Et même sans se demander si ce sera efficace. Ça, c'est cette belle histoire aussi de la multiplication des pains. Vous savez, il y a le Christ qui est là, il y a une foule entière qui a faim, et les disciples disent à Jésus, mais dis donc, ils ont faim, fais quelque chose. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Et les disciples disent, mais Seigneur, nous avons 5 pains et 2 poissons pour nourrir 5 000 hommes, ça va être juste, ça va servir même à rien. Eh bien, faites-le quand même. Et ils donnent les 5 pains et les 2 poissons sans se demander si ça servira à quelque chose. Et voilà le miracle. C'est que cela fera infiniment au-delà de ce qu'il pouvait penser et finalement ça nourrit tout le monde. Je me suis inscrit aussi ce matin sur un groupe Facebook, j'ai trouvé très bien, qui s'intitule « Ceux qui ne croient pas en l'impossible sont priés de ne pas décourager ceux qui sont en train de le faire ». Voilà. « Ceux qui ne croient pas en l'impossible sont priés de ne pas décourager ceux qui sont en train de le faire ». Eh bien oui, heureux celui qui fait l'impossible, parce que le monde a été fait par ceux qui ont fait quelque chose et qui ne savaient pas que c'était impossible et qui ont réussi, pour des grandes et pour des petites choses aussi. On connaît, parce que c'est aussi trop souvent cité, la devise de Guillaume d'Orange, « Point n'est possible d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. » Bon. Oui, on n'aime pas ça parce qu'il y a espérance. On dit, mais si, il faut avoir de l'espérance. C'est qu'il ne faut pas confondre l'espérance et l'espoir. Point n'est besoin d'espérer pour entreprendre. Ça, c'est vrai. Il n'y a pas besoin de se dire que ça réussira. J'entreprends et puis c'est tout et on verra bien. Mais entreprendre, c'est aussi avoir de l'espérance c'est-à-dire de la confiance. Parce que bref, finalement, vous voyez, c'est cela. Jette ton pain, c'est-à-dire ne pas calculer, sûrement. Aussi, je vous l'ai dit, ne pas avoir peur. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la peur de l'avenir. Donc n'ayez pas peur de l'avenir. Il n'y a pas à avoir peur de l'avenir. Parce que l'avenir se construit, on le modèle, on s'adapte. Ceux qui ont peur ne font rien. Il faut se lancer, et puis voilà. Et puis ne pas avoir peur non plus de se tromper, de mal faire, ou que ce que l'on fasse soit inutile. Il faut que ce soit inefficace ou autre. Il faut avoir confiance. La confiance, oui, c'est ça finalement. C'est ça le mot de tout. C'est la confiance. La confiance, c'est la foi. Pas besoin d'espérer, mais il faut avoir confiance, c'est-à-dire qu'il faut avoir l'espérance, avoir la foi, et je pense que c'est cette foi, précisément, qui donne sens à tout ce que l'on fait, parce que quoi que l'on fasse, quoi que l'on possède, quoi que l'on donne, tout cela n'a aucun sens en soi-même, et ça n'a du sens que par la foi qui anime celui qui vit. Amen.